Et avec nous, pour en parler, Johanna Cornou, bonjour, vous êtes référente direction d'école chez SE UNSA, le syndicat, et vous êtes directrice d'une école élémentaire au Havre. Gilles-Marie Vallée, bonjour à vous, vous êtes pédopsychiatre, vous êtes praticien hospitalier, Bruno Jeudy est avec nous. On va rappeler ce qu'a annoncé Gabriel Attal d'abord hier. Il annonce un plan interministériel dans les prochaines semaines pour que les sanctions soient plus fortes à l'école quand on ne respecte pas les règles. Il veut des conseils de discipline en primaire, et puis il veut une prise en charge à l'internat dès 11 ou 12 ans pour être en capacité de le proposer à des gamins qui partent à la dérive, et il veut engager la responsabilité des parents si nécessaire. Tiens, souvenez-vous de ce qu'il disait en janvier dans son discours de politique générale.
Nous devons faire respecter l'autorité partout, dans les classes, dans les familles, dans les rues. Je ne me résoudrai pas à ce qu'on préfère attendre avant de donner une lourde peine, alors que bien souvent, c'est très tôt qu'il aurait fallu agir. Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Et ce qu'il fallait retenir à l'époque, c'était donc dès le plus jeune âge. Johanna Cornou, vous êtes vous-même directrice d'une école. Gabriel Attal propose d'instaurer des conseils de discipline dès le primaire. Est-ce que ce serait une solution face à la violence des plus jeunes ?
En réalité, en annonçant des conseils de discipline en primaire comme en secondaire, le ministre de l'Éducation nationale, enfin le Premier ministre, démontre une fois de plus qu'il ne connaît pas grand-chose au fonctionnement de l'école primaire et surtout à ses défis éducatifs. Et c'est malgré les textes qu'il a lui-même publiés et malgré la phrase que là vous avez repassée, puisque dans la petite formule qu'il a utilisée, on a plus l'impression de justice restaurative que de punition. Or là, annoncer un conseil de discipline pour le primaire, c'est un peu un artifice de communication. Ça va donner l'illusion d'un retour de l'ordre dans les écoles. Mais le retour de l'ordre, ça exige bien plus que des simples déclarations. Ça exige des investissements humains, une formation adéquate pour les enseignants et pour tous les personnels, et des ressources suffisantes pour de la prévention et de l'éducation. On n'a pas besoin d'un énième dispositif qui va prendre des années à se mettre en place. Ce dont on a besoin, c'est de formation, de moyens humains. Voilà.
Mais est-ce que vous partagez, pardonnez-moi, est-ce que vous partagez le constat du Premier ministre qui souligne qu'il y a une augmentation particulière de la violence et de l'agressivité dans les classes de CM1 et CM2 ? Vous êtes dans une école élémentaire, vous en avez des CM1 et CM2. Est-ce que vous partagez le constat du Premier ministre, vous ?
Alors, localement, je ne partage pas son constat, mais on ne peut pas fonder son avis sur juste ce qui se passe dans sa propre école. Effectivement, on a quand même beaucoup de signalements des collègues sur les boîtes syndicales qui font mention de problèmes. Mais
de quel genre de problème ?
Alors, justement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pour ça que je vous parle de formation, d'information et de personnel qualifié. C'est pas tant des problèmes de violence en soi, ce sont des problèmes d'enfants qui ne sont pas pris en charge correctement par rapport à des troubles du comportement, par exemple, qu'ils peuvent avoir, ou alors des troubles des apprentissages qui les amènent à être en difficulté. Et qui empêche qu'il soit pris en charge correctement à l'école par des personnels qualifiés.
Un conseil de discipline, pour vous, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y a des solutions à mettre en place assez facilement, assez rapidement. Enfin, il faut d'abord en fait des effectifs.
Voilà, en fait, nous, ça fait quand même des années que l'on réclame que les RASET soient complets, c'est-à-dire, vous savez, les enseignants spécialisés qui aident à identifier la difficulté scolaire et à la traiter. On a besoin de psychologues de l'éducation nationale ou de médecins de l'éducation nationale. Par exemple, si vous prenez mon territoire, sur mon secteur, il y a deux psychologues de l'éducation nationale, deux médecins de l'éducation nationale, ce qui représente plusieurs milliers d'élèves en périmètre. C'est impossible qu'il y ait une prise en charge correcte des troubles du comportement ou des troubles des apprentissages de cette façon-là. Et au bout d'un moment, les situations qui ne sont pas gérées, elles deviennent ingérables sur le temps scolaire et au-delà. Donc on a vraiment besoin de professionnels de proximité qui soit accessible rapidement pour qu'on ait des procédures d'accompagnement à la fois des élèves et de leurs familles, parce que parfois il faut les mettre en relation avec des personnels, enfin des personnels de soins en fait, hein, à l'intérieur de l'école.
On entend Gilles-Marie Vallée qu'elle est très dubitative, oui. Cette directrice d'école, sur les conseils de discipline pour des enfants de 7-8 ans. Est-ce qu'à 7-8 ans, la peur du gendarme, ça marche ?
Alors, la peur du gendarme, ça marche, et à la fois, on intervient presque trop tard. C'est-à-dire qu'il existe, dans l'école publique, déjà des dispositifs, mais qui sont peut-être sous-utilisés. Mmh. J'entends par là les équipes éducatives qui sont effectivement... sont, à mon sens, plus pertinents que des conseils de discipline. Le conseil de discipline vient sanctionner et propose comme réponse, le plus souvent, l'exclusion plus ou moins longue de l'élève en cause d'un comportement inadapté ou d'une violence. Mmh. Les équipes éducatives sont des réunions qui vont associer donc les enseignants, le directeur d'école ou la directrice, mais également des professionnels de l'enfant, donc la psychologue scolaire, les parents, le jeune lorsqu'il est en âge d'y assister, pour réfléchir au problème, l'analyser et proposer des solutions. La sanction peut venir, mais elle est effectivement à visée réparatrice ou protectrice. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, un enfant violent, ce qui est pertinent, ce n'est pas de l'exclure de l'école pour avoir la paix, c'est effectivement lui permettre de comprendre le caractère inadapté de son comportement et le faire effectivement et le réintégrer de façon plus adaptée.
Gabriel Attal dit « Se traduisent à l'école des mots que l'on retrouve dans le reste de la société comme la perte du civisme et la conflictualisation des rapports ». Le maire de Viry-Châtillon, où s'est produite l'agression mortelle de ce jeune garçon de 15 ans, Chemseddine, jeudi dernier, dit « Il faut leur apprendre qu'il y a le bien et le mal ». Est-ce que c'est là que se situe le problème ?
Alors, le problème est bien en amont, il me semble. C'est-à-dire que, bien évidemment, qu'il est important que les enfants, très tôt, aient une conscience de ce qui est pertinent, adapté, et de ce qui est inacceptable. Ce qui s'est passé est inacceptable, mais... Ce qui est en jeu, c'est pas la connaissance du bien ou du mal, parce que ce qui peut même paraître paradoxal, et ce drame vient l'illustrer, c'est comment certaines valeurs vont prendre le pas sur d'autres valeurs. C'est-à-dire que là, si on caricature, c'est l'honneur d'une jeune fille qui aurait effectivement été bafouée, et que c'est au nom de cet honneur-là qu'effectivement on s'autorise et on bascule dans une extrême violence qui n'est pas non plus acceptable. Je pense que ce qui est en jeu, c'est aussi la non-intégration, le non-développement de compétences humaines naturelles que sont l'empathie, la possibilité d'anticiper la conséquence de ses actes, c'est-à-dire des fondamentaux bien plus larges.
La responsabilité des écrans très tôt dans cette hyper-violence.
Alors, malheureusement, je crois qu'il faut en tenir compte. C'est-à-dire qu'on a beau jeu de dire toujours, d'accuser toujours les écrans, mais ces écrans qui sont utilisés par les jeunes très très tôt ont effectivement une influence. Elles ont une influence notamment sur la gestion de la temporalité. Les jeunes grandissent du fait du formatage que favorisent les écrans dans ce désir de l'instantanéité. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite.
Certains de vos confrères disaient que ça entraînait une forme d'hystérisation chez les jeunes et qui peuvent conduire à des comportements très violents.
Il y a plusieurs facteurs qui se potentialisent. Il y a effectivement cette hystérisation. Je crois qu'il y a aussi une forme de banalisation de la violence, une forme d'anesthésie émotionnelle qui fait qu'effectivement, le principe du scrolling, c'est qu'on passe d'une vidéo à une autre.
Et
donc, on va passer d'une vidéo de petits chats tout mignons à une vidéo où on voit des jeunes tabasser d'autres jeunes, où on voit un accident de la rue dans lequel, effectivement, un passant se fait, ou un vélo se fait écraser par un camion. Et on passe de ces images d'une extrême violence avec une vitesse qui fait que, sur le plan émotionnel, on n'intègre pas la gravité de ce que l'on vit. Et sur le plan émotionnel, donc, on ne développe pas une empathie, une prise de conscience, effectivement, qu'un acte a des conséquences. Mmh. Et ce que l'on observe, c'est qu'il est très probable que ces jeunes n'avaient pas forcément une intention de donner la mort, mais que, pris par la L'impulsivité et l'effet de masse, eh ben, ils n'ont pas géré leurs actes.
Bon, sûr il faut que ce aussi soit rappeler... des conseils de discipline en primaire et des internats de force qui solutionnent ces problèmes.
Non, sachant que les internats éducatifs existent, mais on manque de moyens. Moi, oui. je suis responsable de structure. Je suis responsable d'un hôpital de jour. On a des jeunes qu'on cherche à orienter en internat, il n'y a pas de place.
Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous.